Bienvenue au Rendez-vous à la 3, un podcast dans lequel on va parler d'entrepreneuriat, d'impact et de projets menés par des passionnés. Chaque semaine, nous écouterons les témoignages inspirants d'entrepreneurs qui ont créé des organisations ayant un impact positif sur la société.
Je suis Lia Ferranti et je suis la cofondatrice d'Alatre Media et l'animatrice de ce balado. Pour cette série spéciale, j'ai eu l'opportunité d'animer une série de 6 causeries d'une heure en collaboration avec Startup Montréal, réunissant des aspirantes entrepreneurs et des CEO établis. C'est un format unique que j'ai hâte de partager avec vous et j'espère qu'il saura vous plaire.
Alors si vous voulez découvrir comment entreprendre à votre tour en faisant une différence pour la société, rejoignez-nous. Bonne écoute.
Commencer. Est-ce que, Marie-Lou, merci beaucoup pour aujourd'hui.
Merci, honnêtement. Et Marjorie a me demandé de venir parler ici. Puis c'est vraiment un honneur là, d'avoir été choisie parmi toutes les femmes du Santec qui sont incroyables. Fait que bien choyée, bien excitée. Puis,
d'entendre un peu ton parcours. Pour commencer, est-ce que tu veux peut-être nous présenter un peu rapidement ton parcours professionnel puis comment t'en es arrivée à l'entrepreneuriat?
Oui, puis en plus, c'est drôle parce que moi, j'ai vraiment l'écosystème entrepreneurial. Je me suis plongée dedans à 100%. Mais pour récapituler, moi, comme background plus éducatif, j'ai un DEC en publicité, communication, marketing. J'ai tout le temps été très orientée vers la créativité. J'aime se parler en avant. Je suis aussi animatrice de podcast. Je suis animatrice télé, etc. Donc, tout le côté là, très... jasette, très devant le public, j'ai toujours adoré. Puis le côté créatif du marketing m'intéressait. Par la suite, j'ai étudié à l'Université Laval en entrepreneuriat gestion de PME, qui est un certificat là-bas, fait que j'ai fait un cumul de certificats. Mais le dernier que j'ai fait, c'était entrepreneuriat gestion de PME. Donc, clairement que j'étais déjà un peu attirée par le domaine, dans des domaines complètement différents. Là, moi, ça fait... 21 ans que je fais de l'équitation, fait que je voulais comme me partir en business là-dedans, finalement pas du tout, mais ça m'a comme permis un peu d'aller découvrir le monde entrepreneurial. Puis moi, je viens de l'Outaouais, puis dans l'Outaouais, il y a un incubateur là-bas qui recherchait quelqu'un comme coordonnatrice de programme. Donc, avant d'être une entrepreneure, avant d'être incubée, j'ai travaillé en incubateur comme coordo. Et j'étais fascinée parce que je connaissais l'entrepreneuriat, je voyais, tu sais, c'était quelque chose d'intérêt. Mais les startups, ça, c'était un monde complètement différent. Je pouvais même pas expliquer c'était quoi vraiment une startup innovante, au potentiel de croissance, la technologie. C'était beaucoup de termes que j'apprenais sur le coup. Mais je suis rentrée dedans, puis de coordonner toutes les startups qu'on avait, c'était un beau défi. Et je suis devenue passionnée par le modèle. Fait qu'au-delà de juste de l'entrepreneuriat PME, de dire, OK, comment qu'on intègre la technologie? Comment qu'on fait pour innover? Comment qu'on fait pour aller chercher un haut potentiel de croissance? On peut partir d'une idée qui est peut-être sur un modèle d'affaires qu'on a déjà vu. Comment qu'on se différencie? Fait que moi, j'étais vraiment impressionnée de tous les entrepreneurs qui trouvaient des idées de génie pour révolutionner le monde. Et c'est sûr qu'en travaillant là, ben ça donne le goût de se partir aussi. Ouais, fait que j'étais très ouverte aux opportunités. Et c'est drôle parce que un des petits points qui m'a motivée, c'est que dans l'incubateur où je travaillais en Outaouais, il y avait aucune femme. Il y avait pas de femmes dans les programmes. Il y avait des femmes qui se faisaient refuser des programmes parce qu'elles arrivaient avec un projet qui était plus de type PME, avec un modèle d'affaires qu'on avait déjà vu. Puis moi, je le voyais là, puis j'étais comme. Sont tellement proches d'avoir quelque chose qui fit dans la définition de start-up. Tu sais, il faut juste pousser un peu la technologie, il faut juste les encourager à innover. Mais en même temps, à Gatineau, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une ville de fonctionnaires. Là. L'écosystème entrepreneurial, il n'y en a pas beaucoup. Fait que je me disais, comment qu'on fait pour apporter ces femmes-là qui viennent tu sais, poser des questions sur les programmes, comment qu'on les apporte plus loin? Ça me frustrait beaucoup qu'il n'y ait pas de femmes. Donc, je me suis dit, OK, gars, je mets mon cerveau à action. Puis parallèlement, ça faisait des années que dans tous mes projets médias, je parlais déjà de sexualité, j'en parlais sur mes médias sociaux. J'ai une émission qui s'appelle « Sexe et techno », donc je suis animatrice, c'est documentaire, on parle de sexualité et des effets de la technologie. Donc, j'ai toujours été motivée par la cause. Fait que c'est pour ça que je me suis lancée en entrepreneuriat. Puis bon, je sais qu'on va parler de mon projet plus tard, mais c'est vraiment au carrefour de mes intérêts que je me suis dit « comment je fais pour apporter la technologie dans l'éducation à la sexualité ?» Puis là, ben, je veux pas voler des punchs, fait que... Mais c'est ça. C'est fait que j'étais dans les incubateurs, puis après ça, j'ai passé à incuber. J'ai fait le tour de plein de programmes, puis ça fait presque 2 ans là, que j'ai lâché ma job. Je suis devenue travailleur autonome et fondatrice de start-up là, à temps plein.
Moi, je suis curieuse, tu parles un peu du fait que, ben, justement, il y avait tout cet aspect de la start-up qui t'intéressait, mm-hmm. puis en même temps la sexualité. Ouais. À quel moment tu t'es dit, ben, c'est à mon tour, c'est moi qui passe derrière de coordinatrice, à maintenant, c'est moi l'entrepreneur?
Ouais, ben, c'était conversation avec une de mes amies sur le sujet. C'est ça, je voulais vraiment m'impliquer dans l'éducation à la sexualité. C'était une course qui me touchait beaucoup. Puis là, je me suis dit, bon, je vais faire des recherches. Qu'est-ce qui existe? Ça ressemble à quoi, ce milieu-là? J'ai vraiment plongé dans l'écosystème, puis je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de ressources technologiques qui étaient vraiment ludiques, qu'il y avait des gros manques là-dedans. Puis on va pas parler de tout mon public cible et de toutes les études de marché que j'ai faites. Mais c'était tout un feeling d'annoncer à mon boss dans le temps. Puis j'étais comme, ben, je démissionne, mais est-ce que je peux être incubée, par exemple? Fait que je suis comme restée à la même place pendant 1 an de plus dans leur programme, là. Fait que moi, je suis partie de mon poste, mais je restais là. Puis j'étais comme, je peux plus répondre à vos questions, là. Dans le fond, moi, je suis en train de bâtir mon entreprise, mais c'était vraiment un saut dans le vide, là, définitivement. Ouais. J'avais comme passé assez de temps je m'étais ramassé un petit fonds d'urgence là, pour comme me dire, bon, j'ai au moins un petit coussin. Mm-hmm. Puis c'est ça, mais je me suis vraiment lancée avec rien là, du tout. Puis je me suis dit, c'est le bon moment de le faire. Là.
Ouais. Wow. Et comment tu t'es sentie? À quel moment tu t'es dit, c'est vraiment ça que je veux faire? C'est pas juste un test. C'est dit, je veux être entrepreneur.
Ben moi, je suis vraiment... Tu sais, je peux être intense. Là, c'est... Okay. J'ai vraiment toutes les caractéristiques d'une entrepreneur. Là, je suis vraiment très motivée, très passionnée, très TDAH. Tu sais, ça fait partie de ma personnalité. J'ai toujours eu le côté entrepreneur. Moi, j'étais une horrible employée. J'ai toujours dit ça. Là. C'est très difficile de me manage. C'est très... Tu sais, il faut vraiment que je me sente passionnée par ce que je fais pour être capable de travailler et être productive. Donc... C'est un feeling qui est comme venu au cours de mon parcours, mais de faire le saut, c'était vraiment fantastique. Là. Ouais.
Puis j'imagine que c'était pas stable. Il y a des moments, comme tout le monde, où tu t'es dit peut-être que t'as re-questionné un peu ce rôle, ou est-ce que tu gardais quand même le cap?
Mais maintenant, là, c'est quoi, à tous les jours, pas à tous les jours, mais oui, il y a des périodes où est-ce que tu reconsidères, là, c'est, mm-hmm. tu vois... On est en début de commercialisation encore, fait que mon entreprise me fournit pas un salaire à 100 000 $ par année, puis tu sais, il y a comme des sacrifices à faire, etc. Ouais. Fait que oui, tu remets en question, mais je pense que c'est ça l'intérêt de passer dans des programmes, tu sais, comme les fondatrices. Mm-hmm. Moi, j'ai passé par le Santec, c'est que tu te fais vraiment bien encadrer. Et tu valides ton marché. Là. C'est sûr que vous allez l'entendre 10 millions de fois, mais de valider son idée, de vraiment être certain qu'il y a quelqu'un qui est prêt à payer pour ça, d'être proche de ses clients, ça te met un petit support, là, un petit confort. Ça te permet de vraiment croire en ton idée puis pas se dire, ben, je sais vraiment pas dans quoi je m'embarque. Fait que je me dis, même s'il y a des périodes plus creuses ou des périodes de stress, moi, je leur ai parlé à mes clients. Là. On est supposé être à la même longueur d'onde. Là. Fait que, je suis comme aussi confiante qu'il y a quelque chose qui va pouvoir déboucher de ça. Puis ça l'aide dans les moments de doute. Là.
Absolument. Ouais. Justement, tu parles de défis puis d'outils. C'est quoi justement tes outils concrets ou les organismes qui t'ont aidé justement dans ce rôle puis dans toutes ces étapes-là qui sont souvent challengeantes?
Oui, bien, honnêtement, comme être incubé, c'est vraiment... Je sais pas ça va être quand que je vais arrêter d'être incubée. Là. Mon programme à moi, il est 2 ans, puis je suis comme déjà... Mais où est-ce que je vais aller après? Là? Parce qu'il y a aucune chance que je sois pas incubée. L'encadrement, l'accompagnement, c'était clé pour moi. Depuis le jour 1, j'ai été accompagnée. Et ça vaut de l'or d'être une... Moi, je suis solo fondatrice. Je suis toute seule dans cette entreprise-là. Mais je me sens jamais solo parce que j'ai comme trois coachs. Un coach opération, un coach marketing, un coach edtech. Je suis toujours entourée. J'ai quelqu'un qui m'aide pour mes projections financières. J'ai quelqu'un qui m'aide pour l'investissement. Donc, je suis tellement entourée. Fait que je me dis, ça, c'est indispensable. On dirait que je peux pas, ma marge d'erreur est tellement diminuée parce qu'à tous les petits pas que je fais semaine après semaine, il y a quelqu'un qui est là avec plein d'expérience pour me dire oui, OK, c'est bon. Moi, je pense telle chose. Donc, d'être encadré, c'est vraiment super. Puis là, c'est ça. En ce moment, je suis au Santec, là, fait que, t'sais, j'imagine qu'on va en reparler un peu, mais t'sais, le programme d'accélération, ouais. Il est vraiment fait pour qu'à chaque étape du modèle d'affaires, à ta proposition de valeur, tes clients, ton étude de marché, tes projections financières, t'es juste 100% accompagné.
Ouais.
Puis, autre outil qui est quand même intéressant que j'ai utilisé, c'est la plateforme La Ruche. Fait que, écoute, on peut parler de financement, là, si jamais vous en parlez après aussi, si jamais c'était pas dans les questions, j'adore parler de ça parce que je fais de la gymnastique de subvention depuis un petit bout. Mais j'ai fait du financement participatif sur La Ruche. Fait que là, ça m'a permis d'aller chercher de l'argent du public, d'aller chercher de l'argent de fondation, de subvention. Fait que ça aussi, ça l'aide, là, tu sais, d'avoir un compte en banque d'entreprise qui est renfloué pour que tu le sais que tes prochaines étapes de commercialisation vont être financées. Oui, ça l'aide.
Ok, c'est bon. Je pense que les deux sont très, très reliés en plus, le financement avec les incubations.
Bien, puis c'est peu connu aussi. J'ai l'impression que quand t'es pas dans les... quand t'es pas dans l'écosystème entrepreneurial, c'est dur à comprendre. Mais une fois que tu comprends toutes les opportunités qu'il y a, tu peux juste en profiter, là, puis ça l'aide vraiment beaucoup.
Ouais. Vraiment. Puis plongeons un peu dans le sujet, comment t'es en arrivée à Oli, avec ta passion sur le sujet, la tech, tout ça, la sexualité?
Oui.
Comment ça a créé Oli, en fait?
Ben c'est ça. Fait que là, quand je me suis dit, OK, je me pars, je veux quelque chose de tech, je veux quelque chose qui est innovant, je veux révolutionner ce milieu-là, l'éducation à la sexualité me tient vraiment à cœur. Autant personnellement que de ce que je voyais, là, comme moi, j'ai pas eu d'éducation à la sexualité. Là. Je pense que j'ai eu un cours en secondaire 3, j'ai appris à mettre un condom sur une banane. C'était pas mal, mes parents m'en ont jamais parlé. Genre, tu sais, c'était vraiment. J'ai pas eu grand-chose. Et en étant dans le milieu de la sexualité, moi, je suis fin vingtaine, puis je passais en entrevue tellement de gens, tellement d'intervenants dans le milieu, puis j'étais comme, pourquoi j'apprends tout ça? À mon âge, là. Pourquoi je comprends le cycle menstruel à mon âge, là? Tu sais, il y avait tellement de choses intéressantes. Puis je me disais, ça devrait être enseigné tellement tôt. Puis j'ai comme vu un peu ce gap-là dans le marché, qu'il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup de ressources. Tu veux aller voir un sexologue, ça va te coûter 100 $ de l'heure, il y a des listes d'attente. 75% des sexologues sont à Montréal. Ben, tu sais, ça ne donne pas beaucoup d'offres pour dans les régions. Puis au départ, je voulais y aller avec les ados.
Okay.
Parce que je me disais, bon, ben quand on pense à sexualité, on pense à l'adolescence, quand les ados commencent à avoir un intérêt. Puis là, je réalisais, en faisant des études de marché, que les ados, ils parlent pas à leurs parents. Les ados, ils pensent tout savoir. Ils cherchent pas nécessairement tout le temps de l'aide. Puis j'avais pas le choix que ce soit les parents comme clients parce que je voulais rentabiliser. T'sais, je voulais avoir un client qui allait être capable de payer pour ces services-là. Fait que je me suis dit, OK, clairement qu'il y a comme un petit bug ici. Allons voir qu'est-ce que les parents de jeunes enfants disent. Puis là, les parents de jeunes enfants, ils se livraient, ils parlaient de toutes les problématiques qu'avaient leurs enfants. Ma petite fille à la garderie, elle s'auto-stimule, je sais pas quoi faire. Ah, j'ai pogné mon gars de 7 ans avec la voisine en train de faire un jeu sexuel. Tu sais, comme il y avait vraiment beaucoup de questionnements. Est-ce que je suis en train de ruiner mon enfant? Est-ce que je vais le traumatiser si je parle de sexualité? Est-ce que c'est normal? Il y avait tellement de questionnements que je me suis dit, ben c'est ça mon marché, dans le fond. Il n'y en a pas des ressources pour les 0 à 12. C'est vraiment comme un grand trou. Puis en parlant avec des sexologues, tout le monde s'entend pour dire qu'il faut que ça commence le plus tôt possible, l'éducation à la sexualité, parce que la sexualité, ça commence à la naissance, t'sais, la découverte des sens. Ton enfant commence à marcher, commence à parler, on enseigne les limites, on enseigne le consentement, on enseigne ne pas partir avec quelqu'un dans une vanne s'il t'offre des bonbons. On lui apprend, t'as un enfant à la garderie qui dit, ben là, j'ai un petit chum, une petite blonde, comment tu fais pour gérer ça? Comment tu fais pour lui enseigner des relations qui sont respectueuses? Il y avait tellement de sujets à aborder que moi, je me suis dit, je vais tout mettre ça ensemble. On va créer une plateforme d'éducation à la sexualité. Donc, c'est une app qui va être mobile, qui est web, et qui recueille tout ce qu'on peut avoir besoin comme éducation à la sexualité en tant que parent. C'est validé par des sexologues, par des professionnels de la santé. Puis, à la base, ce qu'on offre, c'est du contenu éducatif, des petites capsules de 2 à 5 minutes qui est recommandé selon l'âge de l'enfant. Fait que tu vois vraiment en temps réel qu'est-ce que tu devrais regarder comme contenu. Et on offre de l'accompagnement. Fait qu'on a un partenariat avec la Fondation Marie-Vincent qui est pour la prévention des abus sexuels. Eux, ils ont un an et demi d'attente sur leur liste pour qu'un enfant puisse recevoir des services suite à un dévoilement d'abus sexuels. Fait que nous, on s'est dit, OK, on offre l'accompagnement de A à Z. S'il y a un parent qui suspecte une problématique, on accompagne. Ça peut être de façon très, très, très accessible avec un accompagnant en messagerie privée, puis ça peut aller jusqu'à la téléconsultation.
Fait que... Donc, c'est intégré dans ton âge.
Exact. On est dans un 360.
Ce que j'ai cru entendre, c'est qu'à un moment, tu as dû faire une itération par rapport à ton public cible.
Ouais.
Parce que c'est aussi, vous êtes au début de votre programme, mm-hmm. l'usager, celui qui paye, ce n'est pas forcément un client et inversement.
Oui, c'est ça.
Donc, est-ce que tu veux un peu nous parler un peu de l'importance du fait d'aller valider? Puis ben, j'imagine que l'incubateur aussi t'a aidé à faire valider.
Absolument.
Épargner une erreur.
Ben oui, absolument. Puis c'est super important parce que même encore aujourd'hui, on est à la commercialisation. Je l'ai, ma plateforme, elle existe. Je suis 100% ouverte à pivoter puis à aller vers un tout autre marché.
Ouais.
Si on me dit demain, est-ce pas les parents, le client cible, c'est les écoles? Parfait. Ça va être les écoles. T'sais, là, évidemment, on a fait du travail pour se dire que oui, OK, il y a un marché, les parents sont là, sont prêts à payer. Fait que j'ai quand même un bon sentiment qu'on peut aller vers là. Puis si ce ne sera pas les écoles, bien, est-ce que ce serait les entreprises d'assurance? Est-ce que c'est les professionnels de la santé? T'sais, il y a vraiment possibilité d'aller explorer différents marchés. Puis quand on ne le teste pas, quand on fait juste se baser sur sa propre intuition, souvent, on peut être surpris, là, parce que... Même si je sais que les adolescents y ont un problème, ben là j'ai pu aller voir que dans le fond la communication entre les parents puis les adolescents était moins facile. Fait que ça m'a permis de pivoter. Fait que des fois c'est le bon client, ben c'est le bon utilisateur final, mais justement c'est peut-être pas le bon client. Ou l'impact que tu veux avoir sur ton utilisateur final ou l'impact que tu veux avoir sur la société au final, ça passe par qui? Ben il y a peut-être plusieurs options. C'est peut-être pas exactement qui vous pensez. Puis je pense vraiment que d'itérer, d'aller faire des études de marché, de parler le plus possible à ses clients, c'est vraiment la priorité. Puis oui, en incubateur, tu te le fais marteler, là, c'est vraiment important, mais je pense que c'est ça qui paye le plus. Il y a tellement de gens qui arrivent avec une idée puis que finalement sont déçus parce qu'il n'y a personne qui est prêt à payer pour. Puis là, tu as tellement mis d'heures.
Vaut mieux que ça soit avant.
Exact, ouais.
Et là, donc, t'es bientôt en lancement. Ça a été quoi tes étapes qui t'ont rendu jusque-là? Parce que ça a pris quand même du temps avant d'arriver à ton produit qui peut être commercialisé.
Oui, ben en fait, on a déjà fait le lancement. On a fait le lancement le 11 juillet, ici même. Fait que là, on est en début de commercialisation. C'est intéressant parce que c'est une super belle, encore une fois, ça fait un an et demi que je travaille là-dessus, mais encore une fois, on a comme la possibilité de faire des itérations. Donc, en ce moment, on fait tester la plateforme de façon gratuite. Je parle aux clients, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, est-ce qu'il y a de la technologie, fait qu'est-ce qu'il y a des bugs, etc. C'est vraiment intéressant d'aller voir tout le feedback du client. Mais ça l'a vraiment... Tu sais, moi, j'ai passé une bonne année, je dirais, à faire études de marché, validation, création du branding, création de mission, valeur, vraiment me positionner envers mon client cible. Ensuite, on a fait une campagne de sociofinancement que je parlais, avec la ruche, qu'on a été chercher 25 000 du public, qui a été doublé par Desjardins. Puis après ça, on est rentré au Santec, on a fait le programme de 12 semaines, puis depuis que je suis rentrée en propulsion, on est en commercialisation. Là. Fait que de février à maintenant, on a bâti la plateforme qui était l'application mobile et web. Là. Fait que ça a été vraiment focusé là-dessus. Et on a créé du contenu, on a créé une centaine de capsules éducatives avec notre équipe de sexologues.
Ouais. Wow. Donc c'est quand même la preuve que ça prend du temps à construire.
Mais j'aurais jamais pensé.
Ben ouais,
honnêtement, je pensais vraiment que quand je me suis lancée, je pensais que ça allait prendre 3 mois.
Mm-hmm.
Ça prend tout le temps 3 mois. Je suis comme, mais oui, là, ça s'en vient. Là, c'est puis quand j'ai fait le sociofinancement, je disais lancement février.
Ben ouais.
Puis là, je suis comme, OK, non, lancement avril. Ah, mais là, c'est sûr que ça va être en mai. Je peux pas croire que ce serait pas en mai. Là, ça l'avance. Ah, ça va peut-être être en juin. Ah, bon, ben là, un moment donné, je me suis dit, prête, pas prête, j'y vais. Je lance. Après ça, on réglera tout le reste. Mais je sais que je peux pas. Moi, en plus, j'aime ça faire les affaires vraiment vite. Mais oui, ça prend vraiment plus de temps qu'on pense. Mais c'est tellement... Faut pas skipper les étapes.
Ouais, mais oui.
Parce que quand on skippe les étapes, tu préfères tellement prendre le temps de bien faire les choses que de devoir revenir en arrière. Moi, j'ai bâti toute ma plateforme. Puis là, j'ai réalisé qu'il me manquait du design UI UX, qui est du User Experience User Interface. Fait que c'est le design qui pense au parcours utilisateur. Moi, j'avais pas fait ça. J'avais fait faire mon design par un designer graphique. Fait que là, quand j'ai lancé ma plateforme pour la première fois, ça, il y avait rien qui était comme rien qui coordonnait. Le monde, là, ça scroll par là, ça scroll par là. J'étais comme, j'aurais jamais pensé. On refait la plateforme. On l'a fait au complet. Fait que tu te dis, ouais, mais si j'avais écouté le monde qui me disait, oui, oui, du design, tu sais, c'est tellement, tu peux vraiment te tromper puis devoir recommencer.
Ça m'étonne pas. Ouais. C'est toujours ça, en fait, le plus difficile de jongler entre le fait d'accepter que ça va être imparfait, parce qu'un produit parfait, c'est déjà trop tard. Mais un produit qui est trop rapide et qui n'est pas assez réfléchi, ça peut aussi être un enjeu. En tout cas, on va avoir la période de questions pour aller plus là-dedans. Mais peut-être pour conclure un peu rapidement, c'est quoi le conseil que tu donnerais à une femme entrepreneur qui veut se lancer?
Oh, mon Dieu. Je pense que ça, je pense qu'il faut une bonne dose de confiance. Parce que je pense que les femmes entrepreneurs, c'est pas tout, tu sais, je nous souhaite toutes d'avoir vraiment confiance en nous, mais c'est un milieu qui peut être intimidant et qu'on commence à faire notre place. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça s'en vient, il y a des belles opportunités, tu sais, vous en êtes la preuve aujourd'hui. Mais ça prend une bonne dose de confiance, puis De savoir, en fait, que le potentiel de pouvoir innover, de pouvoir pousser, on est tellement plus forte qu'on pense que... Ouais, je pense que c'est ça le plus important, puis d'aller chercher de l'aide le plus possible, de se faire encadrer le plus possible. Ouais.
Je suis vraiment d'accord, c'est un très beau conseil.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci. Puis,
si vous voulez poser vos questions, merci à vous. Sinon, moi, j'ai d'autres questions aussi.
Mais non, mais allez-y, je suis vraiment sans tabou. Là. Vous voulez parler d'argent, vous voulez parler de quoi que ce soit, je suis vraiment très ouverte.
Justement, le coût de créer, est-ce qu'il y a un prototype pour le présenter peut-être aux parents dans toute cette validation-là, ou ce n'était que comme de la collecte de données, puis monter, puis dire voici, on design une plateforme en fonction de ce qu'on a reçu, ou il y a eu une recherche préalable, il y a une conception, par la suite ça a été retesté pour voir, pour revalider un peu.
Oui, c'était quoi mon processus d'itération dans le prototype? Je le répète pour
pour
bâtir l'application. Donc, au préalable, on a fait une étude de marché, puis non seulement pour déterminer le besoin, mais pour voir c'était quoi les fonctionnalités que les gens voulaient, c'était quoi la probabilité qu'ils aillent consulter, qu'ils aillent voir un professionnel de la santé. On a vraiment été... toutes les grandes fonctionnalités. Après ça, on a fait des entrevues individuelles. Fait que j'ai pris une quinzaine de parents de différentes tranches d'âge. Je les ai passés en entrevue individuellement. On a parlé de leur parcours de parentalité. On a parlé de leurs enfants. Puis là, je leur posais des questions par rapport à la plateforme. Avant, tu sais, je leur présentais pas la plateforme. Je leur disais, si tu avais un outil parfait, à quoi qu'il pourrait ressembler? Si tu avais à choisir entre telle fonctionnalité, dans quel ordre tu les mettrais? C'est quoi ton premier intérêt, deuxième intérêt, pourquoi, comment tu fais? Tu sais, j'essayais vraiment d'aller voir c'est quoi leur opinion par rapport à ce qu'on planifiait faire. Après ça, on a fait un premier prototype. On l'a fait tester par ma même petite cohorte. Fait que moi, j'ai mis tout le monde qui a participé, études de marché, entrevues individuelles, des parents avec qui que je parlais, je les ai toutes mis dans un groupe Facebook. Puis là, je leur ai présenté la plateforme. Je leur demandais à toutes les semaines, allez voir les nouvelles capsules, allez tester la plateforme, comment ça fonctionne, est-ce que vous aimez ça? Là, je récoltais, je faisais des sondages. Fait qu'on a tout testé ça en premier. Puis là, on a sorti la plateforme qui était comme assez développée au lancement. Puis là, maintenant, je parle aux clients. Fait que là, je vais aller voir les clients. Puis je dis, est-ce que ça fonctionne, etc. Donc, on est encore en itération. On va probablement toujours l'être. Mais oui, c'est important de tester au fur et à mesure. Puis, il y avait une question sur le coût aussi.
Oui. Une question. Prototype, est-ce qu'il y avait des fonctionnalités ou c'était juste plus un interface, un peu le visuel?
Moi, il y avait des fonctionnalités, mais on va vraiment dire, vous faites ça le plus simple possible. La campagne de socio-financement m'a permis d'être comme mon premier testeur un peu. Fait qu'on a comme créé des capsules d'avance. Fait qu'on a pu comme valider un peu les sujets de capsules qui étaient intéressants. Mais ouais, j'avais de la misère à faire un prototype vraiment, vraiment de base parce que moi, je suis comme une overachiever. Puis je voulais que ce soit beau. Puis je voulais que ça fonctionne. Fait que, en rétrospective, j'ai peut-être investi un petit peu trop dans le premier prototype parce qu'après ça, il a fallu que je le refasse, là, comme que je disais. Je conseille d'y aller le plus de base possible pour tester, puis après ça, progressivement. On est là-dedans pareil, puis j'ai choisi une technologie qui coûtait moins cher aussi, fait que ça m'a permis d'avoir un petit peu plus de flexibilité. Là.
Puis pour celles qui sont dans le programme fondatrice, vous allez voir, vous allez avoir des ateliers qui vont vous apprendre à aller faire ces entrevues, justement, à ne pas trop dévoiler.
Ouais.
Il y a le mom test aussi,
ouais,
vous
ouais.
allez découvrir. Il y a plein d'outils, puis il y a aussi plein de capsules sur le UX, sur comment on fait un prototype avec Figma et tout ça pour pas cher. Donc, je ne sais pas, vous allez être bien encadré. Est-ce qu'il y avait une autre question?
Merci pour ce partage. J'avais plein de questions, mais
oui.
Je vais aller à celle-ci. Quelle a été pour toi la plus grande difficulté, le plus grand défi que tu as rencontré dans ce parcours et comment tu as fait face?
Oui. Moi, je n'ai pas un background technologique et je suis une femme en technologie innovante. Je t'avouerais que ça vient avec un lot de défis. Parce qu'il faut que j'apprenne, puis il faut que je comprenne. Parce que là, en ce moment, on a un développeur. J'ai un développeur qui travaille sur la plateforme, et au final, ça me revient vrai. Tu sais, la tâche de déterminer les fonctionnalités, de suivre le projet, de comprendre qu'est-ce qu'il fait, de pouvoir vraiment mettre mes mains là-dedans. Puis, tu sais, c'est ça l'exemple que je disais, là, que j'ai pas fait le design UI UX, que j'ai dû recommencer. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre de truc que j'ai pas de background tech, fait que faut que je l'apprenne sur le tas. Et je me fais vraiment beaucoup dire qu'il faut que je me trouve un cofondateur tech. Mais comme c'est tellement important de trouver un cofondateur qui fit avec moi, comme je n'irais même pas avec mon chum, j'irais même pas avec des gens de mon équipe parce que je veux vraiment que ce soit un match, je ne vais pas aller prendre n'importe quelle personne tech puis dire « je veux être mon cofondateur, apparemment il me faut un cofondateur tech ». Je préfère l'apprendre puis d'engager, t'sais, j'étais allée me chercher les ressources nécessaires financières avec des subventions pour pouvoir aller financer le côté tech et d'aller chercher du support, des consultants en technologie pour mieux la comprendre que de sacrifier 50% de mon équité pour pouvoir aller chercher un cofondateur tech qui va peut-être mener le projet à faillite, là, parce que t'sais, c'est un des plus gros problèmes là, avec les startups qui perdent. Fait que, ouais, je pense que c'est ça, d'apprendre sur le coup la tech.
Il y a d'autres questions?
Oui?
Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir le syndrome de l'imposteur?
Ah, même
pas. Dans cette transition-là?
Oui, ben oui, absolument.
Comment t'as pu sortir de ça? Parce que tu sais, des fois, on a le temps, puis on ouais. se dit, c'est plus pour nous, puis c'est comme on est.
Oui. Fake it till you make it. Honnêtement, comme. Puis je pense que c'est ça qui retient beaucoup de femmes aussi, le syndrome de l'imposteur en entrepreneuriat, en business, en technologie. T'sais, c'est pas quelque chose qu'on apprend beaucoup quand on est petite fille puis qu'on joue à la Barbie, là, mettons. Là. Fait que c'est comme faut le bâtir. En tout cas, bref, hein, je peux partir longtemps là-dessus, mais c'est pas ça le sujet. Mais de. Oui, tu sais, le syndrome de l'imposteur, il est vraiment. Il arrive souvent, même quand tu as un projet, même quand tu rentres dans l'incubateur que tu veux, même quand tu parles aux bonnes personnes puis qu'on te dit que ton projet est incroyable. Tu sais, ça vient en étape un peu qu'au début, j'étais comme, ah, ben là, mon projet, il est peut-être pas assez technologique. Tu sais, c'est une application, c'est-tu assez pour rentrer? Là, je rentre dans les programmes que je veux en tech, je suis comme, OK, I guess que c'est assez technologique. Mais tu sais, c'est technologique, mais c'est un projet à impact. T'sais, après ça, tu as la personne à côté de moi qui fait comme une technologie révolutionnaire en médecine, tu sais, puis qui comme, c'est genre une technologie pour raviver les cadavres avec le sang pour que les personnes, les chirurgiens puissent se pratiquer, puis tout, puis je suis comme... Pardon, c'est fantastique, là. Genre, oui, OK, je sais que ça va faire du bien à la société, mon application, mais comme est-ce que c'est assez? Fait que, tu sais, il y a tout le temps comme quelque chose que tu vois. Mais je pense que c'est de juste de bien maîtriser ton sujet, de savoir, tu sais, l'impact que tu peux avoir. Moi, je me garde, là, tous les petits messages des parents qui m'encouragent puis qui disent que c'est une bonne idée, les messages de mes employés qui disent qu'ils aiment ça travailler avec moi, les messages d'encouragement de tout le monde, là, je les garde dans un fichier dans mon téléphone puis je vais les voir quand que je me sens moins confiante, quand que je suis pas certaine, puis je me sens, donne un peu de confiance, mais sinon, là, regarde, tu mets ton sourire puis tu mets ta plus belle confiance puis tu vas parler en avant d'une crowd parce qu'apparemment, genre, tu sais, je suis une CEO puis ça vaut la peine de m'écouter. C'est le genre de situation aujourd'hui que le syndrome de l'imposteur, il est un peu là, mais c'est ça, tu le fais pareil.
Comme ça vient, ça part.
Ça vient, ça part, c'est constant, mais on vit tout avec, fait que, ouais, faut juste vivre et l'accepter.
Merci.
et passer par-dessus.
La question que j'ai pour toi, quand tu as dû sûrement parler dans ton entourage, quand tu avais cette idée qui sortait, comment est-ce que tu as eu du monde qui a essayé de te dire que ce n'était pas une bonne idée? Si cela est arrivé, comment
tu as géré ça? Ben, ouais, ben c'est sûr que j'ai quand même la chance. Tu sais, mettons, à part des gens dans mon entourage qui pensent que l'éducation à la sexualité, c'est pas important, tu sais, le sujet, il est pas si pire à expliquer. La majorité des gens, ils embarquent avec moi et sont comme « oui, c'est vrai que c'est important » et tout. Mais c'est drôle parce que la grand-mère à mon conjoint, à toutes les fois qu'elle me voit, elle est comme « mais là, t'as pas de revenus stable, là. Comment tu vas faire? Comme, t'es-tu correct? » Puis je suis comme « oui, oui, là, inquiète-toi pas. » Puis comme « mais t'as-tu un salaire? » Non, non, j'ai pas de salaire. Non. Fait que c'est comme de. C'est surtout la stabilité financière. Je l'ai dit plus tôt que à Gatineau, c'est des fonctionnaires, là, beaucoup. Fait que toute ma famille sont fonctionnaires. Fait que eux autres, ils ont comme le salaire, les assurances, le fonds de pension. Puis moi, je suis juste comme. Mais d'être passionnée de ce qu'on fait, ça vaut tellement la peine. Puis au final, tu sais, ils pensent que je prends du risque. Mais moi, j'ai bien moins de... Tu sais, je me dis, il y a bien plus de chances que ça fonctionne puis que j'ai une bonne stabilité financière avec ce que je crée que si je prends un emploi qui est super stable, tu sais. J'essaie de me justifier ça comme ça. Ben oui, je vais prendre la pension du gouvernement, mais si ça fonctionne, mes trucs, moi, j'ai des bonnes projections financières, là, ça peut fonctionner, mon affaire. Ben, je me dis, ben, c'est peut-être moins risqué qu'on pense. Mais c'est surtout ça, là, les gens sont comme plus inquiets de... Tu vas-tu être correct avec ton argent? Ben oui, ben oui. Ben oui, puis garde, au pire, ça fonctionne pas, puis au pire, je repars sur quelque chose d'autre, mais ça va fonctionner. Non, mais ça, oui, 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 absolument, ça va fonctionner. Mais, tu sais, je suis pas... c'est ça, je pense que je suis pas prête à échanger le bonheur et la passion et comme ce style de vie-là pour quelque chose qui va me rendre moins heureuse puis qui va être plus stable. Mais j'ai le luxe de pouvoir dire ça, c'est pas la réalité de tout le monde. J'ai pas d'enfant... T'sais, j'ai pas trop de responsabilités, mais ouais, ça vaut la peine.
J'ai une question. Tu parlais de la phase où tu t'es demandé beaucoup d'aide autour de toi pour combler des compétences peut-être qui n'étaient pas aussi profondes. En tant que femme, on dirait que moi, j'ai le réflexe de me dire qu'il faut que je prouve que je suis capable, puis non, je suis correcte, je vais le faire par moi-même. comment tu arrives à démontrer... Ben, c'est quoi la balance entre... aller chercher de l'aide et démontrer que t'es pas faible, si je peux le faire de façon simple.
C'est vraiment une question, parce que oui, je comprends à 100%. Ben, en rentrant dans l'écosystème d'incubation et de start-up, c'est vraiment normalisé d'avoir du coaching. Comme c'est vraiment pratique courante. En rentrant au Santé, qu'on m'équipe avec un coach. Fait que c'est même vraiment bien vu d'être coaché. Fait que ça l'aide beaucoup d'aller chercher du mentorat. Tu sais, j'ai jamais vu, puis honnêtement, si ce l'est, c'est tellement pas grave, là, de demander de l'aide concrètement. Mais moi, j'ai l'impression que je le voyais comme je m'en vais chercher du mentorat, je m'en vais chercher comme du coaching, je m'en vais chercher les best des best pour m'aider. Puis tout ça, c'est tout couvert. Hein. Fait que tu sais, c'est pas le... c'est une opinion contre ça, mais tu sais, c'est pas comme une coach de vie à genre 5 000 $, là, comme c'est vraiment des ressources de l'incubateur. Mm-hmm. Les gens qui accompagnent ici au Santec, puis je suis convaincue que vous êtes, même dans votre programme, ça va être ça aussi, les gens qui, c'est la valeur, ça n'a aucun bon sens, là. C'est des entrepreneurs d'expérience que leurs conseils sont tellement pertinents, puis tu dis, ça n'a pas de bon sens d'avoir accès à ces gens-là. Là. Fait que, d'aller puiser le plus de ressources possible. J'ai une subvention que j'ai été chercher puis qui est disponible en incubation. Ça s'appelle les bons d'incubation. C'est un montant, un gros montant d'argent qui est pour les consultants. Fait que moi, j'ai eu 40 000 $ pour aller chercher des consultants dans divers domaines. Fait que moi, là, j'ai un consultant en légal, en propriété intellectuelle, en marketing, en opération, en go-to-market. Je suis tellement accompagnée. T'sais, le gouvernement, il donne l'argent pour que les entrepreneurs se fassent encadrer. Fait que c'est pas un « j'ai besoin d'aide ». C'est un « je prends la décision consciente d'aller chercher la meilleure expertise pour pouvoir partir mon projet ». Merci pour vos questions. C'est vraiment des bonnes questions. J'ai pas aimé ça. Merci.